Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Il est 13h passées de quasiment 13 minutes sur Europe 1. C'est l'heure où chaque jour nous suivons Franck Ferrand sur les chemins de l'histoire. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un grand personnage. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Une figure majeure du XXe siècle, j'y viens dans un instant. Mais puisque vous me donnez 2 minutes d'avance aujourd'hui, ça va me permettre de faire 2 petites annonces, si vous le permettez.
Avec plaisir.
La première, ça concerne notre émission de vendredi dernier, parce que nous avons reçu Jean Tullard vendredi dernier et Bernard Coppens. Nous avons parlé de Waterloo et de cette affaire de la berline de l'empereur. Et j'ai complètement oublié, ce qui est assez scandaleux, de vous parler du très beau catalogue, du très beau livre que publient les éditions Albin Michel à propos de cette berline de Napoléon. Ça, c'est sous-titré « Le mystère du butin de Waterloo ». Il y a toutes sortes de contributeurs, Thierry Lenz, Jacques-Olivier Boudon, etc. Tout ce monde-là sous la direction de Jean Tullard. Et c'est un très bel album. C'était dommage de ne pas le citer. Donc voilà, c'est réparé.
C'est chose faite.
Et puis la deuxième chose, mais nous aurons l'occasion d'en reparler après-demain, Julia,
oui.
C'est que mercredi soir, sur France 3, nous parlerons de Vendée. C'est une émission particulièrement importante, je crois. C'est la première fois depuis très longtemps qu'on va dire sur un grand média national la vérité aux Français sur ce qu'il s'est passé en 1793 et 1794 en Vendée. Nous avons pris le risque de le faire, si je puis dire. J'espère que les auditeurs d'Europe 1 seront nombreux devant leur télévision sur France 3 mercredi soir.
En deuxième partie de soirée.
À partir de 22h50. Voilà donc ces premières annonces. Alors, notre figure majeure dont je parlait, peu connue finalement cette figure et même sans doute oubliée des Français, c'est le brillant, le charmant mais aussi l'autoritaire, l'ultra-volontariste Mustafa Kemal, devenu dans les années 20 et 30 le père de la Turquie moderne. À Istanbul, on l'a surnommé le père des Turcs, c'est-à-dire Atatürk.
Et pour nous en parler, vous avez invité son biographe, Alexandre Jevakov.
Et oui, Alexandre Jevakov, souvenez-vous, il avait eu la gentillesse de nous guider sous les ors de la cathédrale russe Saint-Alexandre Nevski il y a quelques semaines. Eh bien, aujourd'hui, il nous donne rendez-vous sous les mosaïques non moins dorées de Sainte-Sophie. L'homme dont il a écrit la vie est un des plus fascinants qu'on puisse rencontrer.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
La Turquie dont je vais vous parler aujourd'hui est un pays relativement jeune puisque c'est la Turquie moderne dont nous parlons. Un pays qui a éclos sur les cendres de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, la sublime porte comme on l'appelait autrefois. Rappelez-vous que pendant plus de 5 siècles, quand le sultan de Constantinople, quand le seigneur des seigneurs tapait du poing sur la table à Istanbul, c'est tout le pourtour de la Méditerranée qui s'ébranlait, qui tremblait. À Damas, à Bagdad, à Tripoli, mais aussi au Caire, à Alger, sans oublier des capitales chrétiennes comme Athènes ou Sofia, on a longtemps vécu à l'heure du Bosphore. Alors c'est vrai que cet immense empire, cette mosaïque de peuples disparates réunis sous le joug turc, se portait mal depuis au moins 1 siècle. On disait, vous savez, de l'Empire ottoman qu'il était l'homme malade de l'Europe. C'est vrai que les nouveaux empires coloniaux lui avaient fait du tort. Après tout, les Anglais étaient comme chez eux en Égypte, les Français en Algérie notamment. Et vers la fin du XIXe siècle, dans les chancelleries occidentales, à Londres, à Paris, à Berlin, qui, je vous le rappelle, sont les grandes puissances de l'époque, eh bien, on a eu tendance à considérer ce vieil empire ottoman comme moribond, ou en tout cas comme bien mal en point. Or, tout bascule en novembre 1918, car à l'issue de la Première Guerre mondiale, Istanbul se retrouve d'un seul coup dans le camp des vaincus. L'Empire ottoman, qui depuis des années se réformait sous l'impulsion de ce qu'on a appelé le mouvement « Jeune Turc », cet empire avait eu la mauvaise idée de s'allier à l'Allemagne de Guillaume II. Vous allez me dire, mais que cherchait donc le Kaiser et les empires centraux dans une telle alliance? Eh bien, il cherchait évidemment des débouchés sur vers le sud, mais surtout, il louchait déjà sur le pétrole de Mossoul, le fameux pétrole irakien. Ça vous dit quelque chose ? Forcément, en 1919, la France victorieuse et tout le camp des vainqueurs derrière elle vont faire payer très cher au sultan, le nouveau sultan Mehmed VI, vont lui faire payer le fait d'avoir choisi le mauvais camp. Les négociations de Versailles sont âpres, comme l'Empire allemand avant lui, comme l'Empire d'Autriche. L'Empire ottoman sera démantelé, dépecé sur le papier et ses dépouilles partagées entre les vainqueurs. Les Anglais vont pouvoir occuper légalement la Mésopotamie, notamment l'actuel Irak. Les Français seront maîtres en Syrie. Les Italiens vont prendre pied dans le sud-ouest de l'Anatolie. Alors, comme toujours dans ces cas-là, après le coup de massue, pendant quelques mois, on a l'impression que rien ne change vraiment. Ça peut sembler étonnant, mais à Istanbul, après la défaite, la vie continue comme avant. Les dignitaires du vieux régime, les ministres, le grand vizir, toute l'élite se maintient tant bien que mal. En fait, ce sont les gens plus modestes qui accusent le coup. Le mouvement Jeune Turc était sorti des rangs de l'armée. Eh bien, ce sont les militaires qui vont regimber. Ceux notamment qui étaient en train de faire leur place dans la société et qui vivent mal, forcément, ce genre d'humiliation. Eux qui étaient de bons petits soldats, si je puis dire, les soutiens réels, les admirateurs du sultanat et du califat, ce sont eux qui se trouvent frustrés dans leurs attentes et dans leurs ambitions. Pour des milliers d'entre eux, c'est un rêve qui se brise, c'est l'éclat de tout le modèle qui d'un seul coup se trouve terni. Que voulez-vous, quand le phare de la société en laquelle vous croyez s'effondre sur lui-même et que la lanterne dégringole, si je puis dire, jusqu'à votre portée, mais vous n'avez plus qu'une idée, c'est de tout faire pour la hisser de nouveau le plus haut possible. Une grande monarchie qui sombre dans le chaos, une immense puissance qui perd ses assises, on en a pas mal d'exemples dans l'histoire, vous savez, c'est la situation qu'on trouvait notamment Bonaparte au moment de la Révolution française ou bien Hitler après l'effondrement de la monarchie prussienne. Ce genre d'homme hyper énergique appartient toujours à la catégorie des soldats déçus qui se faisaient une très haute idée de leur pays, de leur nation et qui, secoués par des événements terribles, mettent soudain tout en œuvre pour reconquérir une grandeur perdue. Or, et là j'insiste, ce sont à chaque fois des militaires d'un rang modeste qui ont été dépossédés de leurs aspirations secrètes par un désastre politique, par un cataclysme. D'un coup, à leurs propres yeux, ils s'imposent comme des hommes providentiel. Eh bien, et vous allez dire, ben dites donc, quel long préambule, mais je voulais un peu fixer l'époque et le paysage. Pour la Turquie de 1919-1920, cet homme providentiel s'appelle Mustafa Kemal. Il est né à Salonique en 1881, ce qui fait que en 1919, il n'a pas encore 40 ans, vous voyez. Dès l'enfance, il a voulu devenir soldat, il a fait une carrière exemplaire, il s'est battu vaillamment en 1911 en Tripolitaine, en 1912 dans les Balkans, sur la presqu'île de Gallipoli. Or, pendant la récente guerre, il vient de faire preuve d'héroïsme dans la défense des Dardanelles, ce qui lui a valu un début de célébrité. Il a fini la guerre en se battant contre les Russes rouges dans le Caucase, il y a gagné ses étoiles. Attention, 2 étoiles, c'est un général de brigade. On comprend comme un autre général de brigade, comme notre général de Gaulle. Vous verrez qu'il y a comme ça un certain nombre de points communs entre les deux hommes. On comprend que Mustafa Kemal ne soit pas d'une trempe ordinaire. Il aime se battre et gagner. D'ailleurs, il sera surnommé plus tard le Gazi, le victorieux. En attendant d'être carrément appelé Atatürk, c'est-à-dire le père des Turcs. Je vous l'ai dit, quand le phare de la société s'effondre, vous vous retrouvez de plein pied avec la lanterne. Et pour peu que vous ayez de l'orgueil, de l'ambition, de l'énergie à revendre, eh bien vous vous dites que peut-être qu'après tout, votre heure a sonné. C'est ce qui se passe pour Mustafa Kemal. Le voilà, lui, petit officier supérieur de l'immense, enfin officier général maintenant, de l'immense armée turque. Le voilà qui joue finalement dans la même cour que le sultan en personne. Car en 1919, Kemal n'est déjà plus tout à fait n'importe qui. C'est un chef militaire victorieux, respecté. Autant le dire, l'éclat de ses victoires est un des rares motifs de fierté que conservent les Turcs dans cette époque funeste. Face au vieil impérialisme déjà presque enterré, Kemal va donc incarner le seul rêve possible, celui d'un nationalisme tout neuf, bien vivant. Attention, ce nouvel horizon se paie au prix fort, celui d'un repli sur le peuple turc, sur la terre turque au sens strict, c'est la seule chose finalement que les vainqueurs aient laissé aux vaincus, en l'occurrence aux anciens Ottomans.
Sur Europe 1, extrait de la bande originale du film documentaire de Marc Mopti de 1982, Atatürk.
Alors, Atatürk, on peut le dire, est l'homme d'un destin. Quand je dis Atatürk, Mustafa Kemal, si vous préférez. Le destin frappe à sa porte sous la forme du seul événement propre à faire réagir à ce moment-là des Turcs qui sont bien assommés par ce qui vient de se passer à Versailles et à Sèvres. C'est une attaque du vieil ennemi grec. Et oui, au moment où l'Europe et le monde ne parlent que de traités de paix, les Grecs, eux, n'ont rien trouvé de mieux que de profiter de la faiblesse des Turcs pour venir les agresser sur les côtes d'Anatolie. L'Anatolie, c'est l'antique Asie mineure, celle des plus belles colonies grecques de jadis. Ce sont des choses qui ne s'oublient pas, que voulez-vous. Sur la population turque, l'offensive des Grecs fait l'effet d'un électrochoc. Les Turcs attendent une réaction de la part de qui ? Du sultan, du gouvernement, pensez-vous ? L'élite ottomane est bien trop occupé à sa propre survie pour oser mécontenter les Grecs et leurs puissants alliés anglais et français. La voie est désormais libre pour Kemal. Il a vite fait de prendre le pouls de ses partisans. Il sait avec quel ciment, ayant vaincu, il va devoir bâtir le socle de son propre phare, si je puis dire, hein, pour filer cette métaphore. On l'oublie, mais la révolution kémaliste va utiliser à fond, dans un premier temps, le levier de la religion. Ça, ce sera une chose très importante. D'ailleurs, est-ce que Mustafa Kemal avait vraiment le choix ? Sûrement pas. Dans un empire en ruine, dans une société meurtrie, le sabre et le goupillon, si je puis dire, étaient les deux seuls appuis encore vivaces. Alors, il commence par organiser des élections générales afin de former la Grande Assemblée nationale d'Ankara. Il est élu chef du gouvernement au début de 1920. Et là, il y a trois événements qui vont dans son sens. D'abord, les alliés qui sont impressionnés par ce qui est en train de se mettre en place en Turquie laissent les Grecs aller tout seuls au combat. On est là en juin 1920. Par ailleurs, le sultan accepte le traité de Sèvres, ce qui va faire de nouveaux partisans qui affluent dans les rangs d'Atatürk, enfin de Mustafa Kemal, devrais-je dire. Et puis, il y a une nouvelle alliance avec la Russie soviétique. Tout ça va aider, bien entendu. Il faut agir maintenant. L'esprit national est si puissant chez les Turcs dépossédés de leur empire que les Grecs ne tarderont pas à être battus à plate couture. Cette fois, la victoire à l'extérieur, si je puis dire, va se doubler d'une victoire ou d'une réforme, en tout cas à l'intérieur. Kemal profite de son heure de gloire pour abolir le sultanat. Mehmet VI se réfugie à ce moment-là dans l'ancien sultan, se réfugie dans le giron des Anglais. En octobre 1923, la République est proclamée, avec bien sûr Mustafa Kemal pour président. Et en mars 1924, le califat est aboli à son tour. Cette fois, on peut dire que tous les membres de la famille ottomane sont chassés de Turquie. Je vous ai dit tout à l'heure, la voie est libre pour Mustafa Kemal. Maintenant, c'est pas la voie qui est libre, c'est carrément le pouvoir qui lui appartient.
Un extrait sur Europe 1 de l'hymne turc, Franck.
Nous ne sommes pas turcs, nous ne sommes pas mis au garde à vous pour entendre cette musique martiale. Alors il s'agit bien d'une révolution, d'un nouveau régime qui ne supporte pas les fantômes de l'ancien. Je vous l'ai dit, Atatürk s'est installé ailleurs. Il a fixé sa capitale à Ankara. Il tourne délibérément le dos à Istanbul. Or, le gazi est trop fin politique pour ne pas reconnaître dans ses alliés d'aujourd'hui ses ennemis de demain. Et en l'occurrence, bien entendu, il a reconnu les potentiels attentats musulmans du pays. Ça va être cette prise de conscience très forte de sa part, l'origine d'une politique de laïcisation très forte. Il a supprimé d'abord le califat et puis il essaie de faire sortir l'islam des domaines scolaires et judiciaires. On abolit bientôt les ordres religieux. En avril 1928, ce sera chose incroyable, la séparation de l'État et de la religion. Ce que nous avions fait, nous, en France, après tant et tant et tant de siècles d'atermoiement, en 1905 seulement, le 25 novembre 1925, c'est la fameuse loi du chapeau. On va lutter contre le port du fez, vous savez. Ça fait penser aux réformes que Pierre le Grand, en Russie, adoptait au tout début du XVIIIe siècle, lorsqu'il interdisait à ses propres courtisans de porter la barbe. Le calendrier occidental est adopté par la Turquie, la nouvelle Turquie, en 1926. L'alphabet latin en 1928, le système métrique en 1931. Éducation tous azimuts, alphabétisation à la mort d'Atatürk, 80% des Turcs sauront lire et écrire. Et quand je dis des Turcs, c'est garçons et filles. La condition de la femme s'améliore d'une façon incroyable à cette époque dans la Turquie kémaliste. C'est l'abolition de la polygamie, le droit au divorce, même le droit de vote pour les femmes aux élections générales dès 1933. Et je ne vous parle pas de l'industrialisation des équipements, etc. L'intelligence de celui qui bientôt va donc pouvoir se faire appeler Atatürk, et moi je vais pouvoir ainsi le nommer par la même occasion, le père des Turcs, son intelligence ce sera d'avoir compris qu'il ne serait jamais calife à la place du calife. Mais sa lucidité est allée plus loin encore. En dépit des flatteries, Kemal a su d'instinct que l'armée seule, si forte fut-elle, ne pouvait suffire à asseoir durablement le nouveau pouvoir. D'où la mise en place d'une république nationaliste, vouée à un État fort, avec un parlement docile, avec des élections sous contrôle. Bon, vous m'avez compris, c'est peut-être pas tout à fait une dictature qu'Atatürk a installée là-bas du côté d'Ankara, mais précisément, ce n'est pas non plus une démocratie. Je suis ravi d'accueillir donc Alexandre Jevakov, qui nous avait reçu il y a quelques semaines maintenant dans cette très belle cathédrale Saint-Alexandre Nevski de Paris, la cathédrale russe de Paris. Vous venez aujourd'hui donc, Alexandre Jevakov, nous parler de cet Atatürk dont vous êtes le biographe. Votre biographie est parue chez Talendier, elle a été rééditée chez Talendier. Le personnage, je le disais pour commencer cette émission, est relativement mal connu des Français. Je me rappelle qu'au lycée, pourtant, on nous parlait pas mal d'Atatürk. On a l'impression que, avec le temps, peu à peu, son image a tendance à s'évanouir dans les brumes du passé.
C'est effectivement un peu curieux parce que c'est un personnage qui a eu énormément de contacts avec la France à tout moment. D'abord, il a fait partie de cette génération de Turcs qui parlait et écrivait le français, qui ensuite a été formé dans le mode intellectuel français, vous avez évoqué la laïcité.
Il y tenait beaucoup.
Oui.
Il avait des relations personnelles avec un certain nombre d'hommes politiques français.
Il est venu à plusieurs reprises en France pour des manœuvres militaires et visiter un certain nombre d'usines. Et puis effectivement, pendant la guerre d'indépendance, que les Turcs appellent la guerre d'indépendance, il a eu de nombreux contacts avec des hommes politiques français, notamment avec l'ancien président de la commission des affaires étrangères, Franck Labouillon, qui a été le principal négociateur du côté français avec Atatürk, enfin le futur Atatürk, avant que les négociations n'aboutissent à Lausanne au traité de 23.
Est-ce qu'on peut dire que la France, sur un certain nombre de points de la politique très volontariste qu'il a imposée à la Turquie, la France lui aura servi de modèle ?
Indubitablement. La Troisième République et tout l'état d'esprit de la Troisième République et l'influence et l'agent influence, si je puis dire, de la Turquie, Atatürkiste, si, là aussi, et à tel point que beaucoup de textes à commencer par le Code civil, mais aussi un certain nombre d'autres textes, ont été quasiment copiés en Turquie. Et un certain nombre de fonctionnaires ou de hauts fonctionnaires ont été envoyés dans les années 30 en Turquie par la France. Et moi-même, quand j'ai travaillé sur la biographie d'Atatürk, je me souviens avoir rencontré un jeune, enfin il était beaucoup moins jeune à l'époque puisqu'il était presque octogénaire, mais enfin j'avais rencontré un ex-jeune HEC qui venait de créer une agence Citroën dans les années 30 à Ankara et qui avait été un jour convoqué par la présidente de la République parce que Atatürk voulait avoir son avis sur le mode de développement économique du pays. Voilà. Donc c'est un petit exemple, une anecdote quasiment, mais un deuxième...
Oui, mais qui prouve à quel point il avait toujours un œil sur ce qui se passait à Paris.
Absolument. Et un autre exemple qui est Hervé Alphand, qui fut un grand diplomate français dans les années 50 et 60. Lui aussi avait été envoyé comme jeune inspecteur des finances en Turquie dans les années 30 et il y eut beaucoup de contacts avec Atatürk. Donc toute cette Turquie républicaine a été jusqu'aux années 50 et 60 extrêmement marquée, extrêmement proche de la France, à tel point que quand vous alliez dans l'autobus à Istanbul jusque dans les années 70, où vous aviez aucune difficulté à trouver des francophones. Et encore aujourd'hui, vous avez beaucoup d'établissements où la bourgeoisie istanbouliote envoie ses enfants, garçons et filles, qui sont des écoles françaises et francophones, qu'elles soient d'ailleurs privées, c'est-à-dire religieuses ou républicaines, laïques.
La nouvelle république d'Atatürk ne faisait en cela que marcher dans les pas de l'ancienne monarchie ottomane, hein, qui elle-même était assez francophone.
Oui, exactement, avec beaucoup de contacts à différentes époques, notamment à l'époque de Napoléon III, mais bien avant déjà.
Déjà sous François Ier.
Déjà sous François Ier pour commencer par le commencement, mais ensuite, plus récemment, au début du XIXe siècle, quand apparaissent les premiers sultans réformateurs, ils regardent beaucoup du côté de la France.
Il y avait autre chose de français chez Atatürk, chez Mustafa Kemal, c'était son allure,
absolument.
C'était son élégance, absolument. Ses tailleurs, ses chapeliers,
absolument.
Tout ça était français. Hein.
C'est au moins d'inspiration française et je raconte notamment une anecdote dans ma biographie, comment venu à Paris, je crois que c'est en 1910, il a un rendez-vous au ministère de la guerre avec un compagnon et le compagnon l'attend à la sortie de sa chambre d'hôtel et il s'est mis dans la tenue qui lui semblait la plus française, sinon la plus occidentale, il s'était mis en tenue de golf, qui naturellement était sûrement très approprié pour aller sur un terrain de golf, mais assez peu pour aller rencontrer les collaborateurs du ministre de la guerre. Mais encore une fois, c'était un homme qui était particulièrement élégant et ceux qui vont à Ankara aujourd'hui, qui ont l'occasion d'aller au mausolée, à côté du mausolée, il y a un musée qu'il faut absolument visiter où on trouve trace des vêtements portés par Atatürk et vous y verrez les meilleures étiquettes et les meilleurs fournisseurs européens, notamment parisiens.
Le compagnon dont vous parlez, c'est Nouri ? Celui qui s'appelait
Conquer, non, c'était Ali Fethi qui était vieux compagnon, mais parmi les compagnons, effectivement, Nouri, ce qu'on appelle Junker ensuite, a été un de ses très très proches, oui.
Oui, Nouri, le seul après son divorce avec sa première femme, après oui. son divorce avec Latif, le seul à pouvoir appeler le Ghazi par son prénom, écrivez-vous. Oui. Parents éloignés de Salonique aux Dardanelles en passant par la Tripolitaine, les deux hommes ont placé leurs pas dans les mêmes traces, comme des frères. Nouri fut le premier représentant nationaliste à Berlin. Il est membre de l'Assemblée nationale, mais les titres officiels ne sont qu'un vague reflet du rôle de Nouri auprès de Kemal. Difficile à définir d'ailleurs ce rôle, havre de paix, triomphe de la gentillesse gratuite, réconfort familial. Kemal connaît avec Nouri et les siens une vie normale, sans passion ni tension. C'est un ami, vraiment, c'est presque son ombre, ce personnage.
Oui, parce que Mustafa Kemal, qui a une image extrêmement dure, comme vous l'avez dit à très, très juste titre, souvent plus proche du potentat ou
du dictateur
que du véritable démocrate, est un homme qui a effectivement cherche de manière permanente sa position personnelle. Alors, il a perdu très vite son père. Il a été très très proche de sa mère qui a vécu longtemps, qui est morte au début des années 20. Et il avait une sœur, Makboule. Et en revanche, il a eu beaucoup de maîtresses. Il a eu une femme, Latifée, avec laquelle ça s'est mal passé parce que c'était une bourgeoise extrêmement occidentalisée. Et donc il l'avait épousée un peu, j'allais dire, dans une démarche un peu marketing. C'est-à-dire qu'il voulait avoir une femme
présentable,
voilà. Qui était vraiment la vitrine de ce développement à l'occidental qu'il souhaitait donner à la Turquie, qui parlait le français et l'anglais, qui avait été formée donc en France, qui voyageait très souvent avec sa famille à Biarritz. Donc quelqu'un qui était vraiment représentatif. Et puis cette Latifée s'est aperçu que le Mustafa Kemal dans l'intimité était quelqu'un qui aimait beaucoup passer des heures et des heures avec ses copains, aimait boire et donc la traitait plutôt comme une espèce de jolie poupée, sans pour autant voir qu'une femme, ça s'entretient, ça se drague dans la continuité. Enfin bref, voilà, on a
c'était
beau être marié.
C'était pas son fort.
Non, il estimait que les choses devaient être faites à sa main. Et donc, avec Latifée, ça s'est mal passé. Au début, donc, il y a eu beaucoup de crises. Et puis, finalement, ils ont divorcé. Et en fait, Latifé donc a divorcé de Mustapha Kemal très vite, donc dans les années 25-26. Elle a vécu jusqu'en 1975 et elle est restée d'une discrétion qui, à notre époque de pipolisation ultime, doit être rappelée. Elle n'a jamais accepté d'écrire quoi que ce soit sur Mustapha Kemal, sur son ancien mari. Elle voyait énormément de gens qui lui en parlaient, mais à chaque fois, elle restait extrêmement discrète. Elle n'a jamais pris aucune position, y compris dans les années 60 ou 70, où on cherchait à trouver un autre Mustapha Kemal et un autre Atatürk, parce que pendant très longtemps, bien entendu toute sa vie durant, il est mort en 38, c'était une espèce de sacralisation du personnage. Ensuite, il y a eu une loi au début des années 50 qui a interdit en Turquie toute remise en cause sous quelque forme soit du personnage.
Alors justement, on va venir à la légende Atatürk, voilà. En quelque sorte. On va parler de tout l'héritage qu'il a laissé et de ce qu'en ont fait les Turcs contemporains. Avant, si vous voulez, on va envoyer une petite page de publicité.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et nous nous intéressons aujourd'hui sur Europe 1 à l'incroyable destin du père de la Turquie moderne avec son biographe Alexandre Jevakov. Sa biographie Kemal Atatürk, les chemins de l'Occident, est disponible chez Talendier.
Franck. Chez Talendier, il était justement en train de nous dire, Alexandre Jevakov, il vous demandait, Julia, mais c'est vous la fameuse Julia, mais oui, c'est elle.
Moi. Vous n'êtes pas déçu, tout va bien, d'accord.
Quel privilège nous avons chaque jour, c'est merveilleux. Cette biographie donc sur Mustapha Kemal, je tiens à le souligner, est vraiment très chatoyante. Voilà le mot qui convient. On est en Turquie, il ne s'agit pas seulement, et Dieu sait pourtant que la vie de Kemal est d'abord un parcours politique et un destin de dirigeant national, voire pour ne pas dire nationaliste, mais en l'occurrence on profite, si je puis dire, à mesure que les pages se tournent, on profite de toute l'atmosphère turque. Lorsque l'Ertugrul, dites-vous, un ancien yacht impérial, entre dans le Bosphore, on est là en 1927, au moment du grand retour du maréchal Kemal, du Gazi, une véritable flottille vient à sa rencontre, steamers reliant Istanbul aux îles, yachts privés, bateaux de pêcheurs, tous chargés de véritables grappes humaines au mépris de toute sécurité. Après avoir butiné les deux rives, Kemal débarque devant le palais de Dolmabahçe, accompagné de Sabiha et de deux autres filles adoptives. Ah oui, il faut qu'on parle de ses filles, tiens d'ailleurs. De Nouri, toujours, et du groupe habituel de ses intimes, le Gazi gravit les marches du palais et arrive dans le salon d'honneur, avec son plafond en coupole décoré de fenêtres en trompe-l'œil, ses innombrables colonnes corinthiennes, son gigantesque lustre offert par la reine Victoria et l'or omniprésent, le salon est une curiosité architecturale, comme si un artiste s'était saisi de Sainte-Sophie pour en faire une immense vanité bourgeoise. Vous voyez qu'on prend du plaisir à lire cette biographie. Je tenais à citer comme ça quelques lignes pour qu'on comprenne dans quelle atmosphère tout ça se déroule. Atatürk n'a pas trouver finalement les vêtements abandonnés des sultans, trop grands pour lui, il lui allait à ravir.
Oui, Atatürk, vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, c'est très important. Atatürk a compris que si on voulait que la Turquie sorte complètement de toute cette période d'incertitude multiséculaire, il fallait effectivement qu'elle accepte de redéfinir ses limites territoriales. Et donc, effectivement, c'est le choix de cette Anatolie avec la partie européenne qui va en Thrace et avec l'Istanbul contemporaine et qui conduit à ce que dans le traité de Lausanne, qui met fin à la guerre entre les Grecs, les Turcs et les Alliés, il y a cet échange de population qui est un échange dramatique pour près de 2 millions de personnes. Il y a 1,3 million de Grecs qui vivaient en Asie mineure, qui repartent en Grèce, et il y a 500 000 Turcs qui vivaient en Thrace, qui partent. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous avez l'occasion, à Istanbul a été ouvert un musée très très intéressant sur cet échange de population, qui est un musée récent, parce que pendant très longtemps, c'était une phase des relations gréco-turques qui avait été un peu fermée, oubliée, et aujourd'hui, de part et d'autre, on reconnaît les choses et tous les problèmes humains que ça crée. Et donc, Atatürk accepte de fermer toute ambition territoriale, ce qui est une coupure, une rupture par rapport aux jeunes Turcs qui, eux, rêvaient de créer ce qu'on appelait un empire panturanien, qui effectivement était une folie à tous égards. Et donc, pour le reste, vous l'avez dit très justement, ce choix de l'influence laïque, moderne, européenne, elle est moins radicale, c'est moins une rupture, parce que déjà antérieurement, les jeunes Turcs y pensaient, simplement ils n'avaient pas eu le courage et la cohérence globale de le faire, et effectivement, ils n'avaient pas rompu avec le principe du sultan sultanat et du califat. Le califat, lui, étant supposé être au-dessus des frontières.
Et on a l'impression que Mustafa Kemal oscille constamment entre deux attitudes, ou peut-être plutôt entre deux postures. Il est parfois le despote éclairé, un peu à la Catherine de Russie, ou à Pierre le Grand, justement, qui fait avancer à marche forcée son pays vers ce qu'il considère être la modernité, ou ce qui est bon pour lui. Et puis, d'un autre côté, un aspect gaullien, c'est-à-dire de grandes visions extrêmement fortes qui dessinent un chemin sur lequel il s'agit d'entraîner un peuple, en quelque sorte.
Oui, indubitablement. Donc, il a une démarche qui est ontologiquement un peu despotique. Il a essayé par deux fois de créer un parti d'opposition, mais c'était une démarche totalement artificielle qu'il avait confiée à des proches. Et la première fois, notamment en 25, lorsque ça tourne mal, puisqu'il y a des émeutes, etc., il ferme immédiatement les vannes et il revient à une logique qui est beaucoup plus naturelle pour lui, qui est celle de l'autoritarisme.
On peut parler, à propos de cet autoritarisme, d'un véritable culte de la personnalité.
Oui, indubitablement.
Il devient une sorte d'icône omniprésente.
À laquelle il a lui-même un peu succombé dans les dernières parties de sa vie, puisqu'il s'était même laissé
aller. On est à l'époque du stalinisme triomphant en Russie.
Voilà.
Et
lui-même succombe.
Et bien sûr de Mussolini et d'Hitler.
Oui, alors il a, sur le plan des libertés publiques, on n'est absolument pas dans un modèle comparable à celui d'Hitler ou de Mussolini.
Pas du tout.
Mais dans un domaine intellectuel, il a voulu à un moment prétendre et apporter la démonstration que les Turcs descendaient des Étrusques et des Hittites. Et puis il a voulu aussi démontrer que la langue turque était en quelque sorte la langue mère. Et là, on est tombé
dans...
Une
sorte de complexe, on peut dire, chez lui par rapport à
l'Occident. Oui, parce qu'il a vécu dans toute cette phase où la Turquie, l'Empire ottoman, était effectivement malade et très mal vue. Et que par ailleurs, à l'intérieur de l'Empire ottoman, le Turc lui-même était considéré comme une espèce de berger un peu débile et quelque chose. Donc c'est vrai qu'il entre dans une logique de renaissance du nationalisme et de l'orgueil turc.
Ce culte de la personnalité dont je parlais s'accompagne évidemment d'un souci permanent à porter à l'image du Gazi, c'est-à-dire le vainqueur. Le Gazi, c'est le vainqueur.
Le vainqueur russe, à titre ottoman, qu'on accordait aux militaires vainqueurs.
Et donc il fait très attention à son image, non seulement dans sa tenue, dans son allure, mais aussi dans sa famille. On parlait de ses femmes. Il choisit ses filles aussi en fonction du look.
Alors il est partagé entre deux choix. C'est-à-dire qu'il est très très sensible à la communication. Il va sur le terrain, ce qui n'est pas le cas des sultans. Il rencontre énormément les journalistes. Il donne des interviews, et notamment des femmes journalistes étrangères. Il a compris tout à fait l'importance de bien recevoir et de bien être vu par ses correspondantes. Et par ailleurs, il crée très très vite, au début de la guerre d'indépendance, une agence de presse qu'il appelle l'agence anatolienne, parce qu'il considère que c'est un outil quasiment de guerre. Et puis par ailleurs, comme vous le dites, dans sa famille personnelle...
Très visionnaire et un peu en avance, hein, tout
très,
ça.
Très très en avance, oui. Et dans sa famille personnelle, puisqu'il n'a jamais eu d'enfant, il a adopté 8 filles et il a refusé d'adopter des garçons en disant qu'ils seraient soit dégénérés, soit qu'ils seraient utilisés comme des espèces d'héritiers indus.
Se disait peut-être qu'ils étaient dangereux, les garçons. C'était là encore la vieille tradition ottomane où chaque nouveau sultan, lorsqu'il montait sur le trône,
se débarrassait,
faisait égorger ses frères et ses cousins.
Et alors, quant aux filles, il a effectivement, comme vous l'avez dit, choisi toujours ou au maximum des filles qui représentaient là aussi une espèce de vision marketing. Il a par exemple choisi une fille qui était pilote, donc qui montrait aussi la capacité moderne. Il a choisi une fille qui était historienne, qui allait donner naturellement de toute cette épopée la meilleure image. Donc il est dans une vision extrêmement moderne des choses et dans laquelle il contraste à la fois une vision un peu traditionnelle ou traditionaliste et une vision extrêmement moderne des choses.
On est donc toujours sur la frange et on ne peut s'empêcher de penser à la grande problématique de cette Turquie moderne, son rapport à l'Europe. Qu'est-ce que vous diriez d'entendre quelques notes de Mozart, l'enlèvement au sérail, ça s'impose.
Thank you.
Quelques notes sur Europe 1, vous l'avez dit Franck, de l'enlèvement au sérail de Mozart, bien entendu.
Alors, ce qui m'a beaucoup frappé, Alexandre Jevakov, lors de mon dernier séjour en Turquie, c'est que le nom, l'image, le souvenir de Mustafa Kemal, ils sont encore très présents et très répandus. Presque comme si le personnage était encore en vie alors qu'il est mort, vous nous l'avez dit, en 1938. Il y a 74 ans, si je ne m'abuse. L'héritage d'Atatürk, ce ne sont pas seulement un mausolée pris d'assaut par les visiteurs, et des infrastructures de pays modernes. Non, son principal héritage, c'est la fameuse laïcité à la turque, une laïcité dont les actuelles élites du pays qui se présentent comme dangereux ou difficiles, héritiers évidemment du kémalisme, veulent faire un argument en faveur de l'entrée de la Turquie dans l'Europe. En fait, c'est pas si simple, car cette laïcité, en réalité, elle a toujours été imposée par la force au peuple turc. Elle suppose l'existence d'un régime très ferme, plus ou moins militarisé, autrement dit, contraire aux exigences démocratiques requises des États membres. Et c'est toute la limite de ce système, évidemment. Encore une fois, l'ascension d'Atatürk s'est faite sur le chaos et grâce à des appuis religieux, ne l'oublions pas. Une fois au sommet, le grand homme s'est retourné contre ces religieux et a voulu les maintenir sous le boisseau. Son œuvre, grande œuvre, n'a été bâtie qu'avec le ciment de ceux qui sont devenus ses adversaires. Et aujourd'hui, le ciment est depuis longtemps effrité et vous savez que, bien sûr, la Turquie a renoué avec un certain nombre de ses vieux démons. Je vous cite Alexandre Jevakov dans votre biographie d'Atatürk. Atatürk, écrivez-vous, étant la référence systématique, son nom et sa pensée sont utilisés à tout propos dans tous les sens, l'absence de référence étant interprétée à tort ou à raison comme une critique, la mention d'Atatürk devient souvent un simple rite ou une caution qu'utilisent avec la même facilité des hommes de droite et de gauche. Certains ouvrages scolaires consacrés à l'éducation religieuse réussissent même à islamiser Atatürk, à le transformer en un héros de l'islam et à le présenter comme le défenseur d'un islam authentique. Or tout ça évolue même rapidement avec le temps et vous vous êtes permis pour la réédition de votre ouvrage d'ajouter une sorte de coda sur justement cette question d'une laïcité de plus en plus problématique en Turquie et d'une adhésion évidemment problématique à l'Union européenne. Je vous cite encore une fois, je ne me hasarderai pas, écrivez-vous, à pronostiquer la réponse qu'apporteront les responsables européens à cette question complexe de l'entrée de la Turquie dans l'Europe. Biographe d'Atatürk, je me contenterai d'une remarque. Si à la suite d'un feu vert de la Commission, la Turquie devenait membre, un membre potentiel de l'Union européenne, l'histoire ferait un drôle de clin d'œil, une sorte de grimace même à Atatürk. N'est-ce pas à un gouvernement dirigé par un parti islamiste que sa patrie devrait de rejoindre l'Europe. C'est toute la... Je parlais tout à l'heure d'oscillation et de balancier. Là, aujourd'hui, ça oscille de moins en moins puisqu'on est vraiment dans l'islam en Turquie, mais avec toujours cette référence laïque à Atatürk.
Oui, on est depuis 10 ans maintenant, la Turquie est dirigée par un parti qui s'appelle l'AKP, qui est un parti qui se considère comme des partis islamiques modérés. C'est qui se compare assez souvent à la tradition démocrate chrétienne en France ou en Italie dans les années 50 et 60. Monsieur Erdogan, qui est l'actuel premier ministre turc, a été maire de Istanbul, et il est certain qu'il a lui-même beaucoup évolué. Par exemple, quand il était candidat aux élections municipales, il envisageait, par exemple, d'installer une mosquée à Taksim, ce qui naturellement n'a jamais eu lieu. Et donc, on voit bien que dans le discours gouvernemental et politique turc de la dernière décennie, les choses ont évolué. Il n'en reste pas moins que il est toujours très très difficile de faire parler les morts, a fortiori quelqu'un d'aussi complexe que Mustafa Kemal Atatürk. Donc là, encore une fois, je ne me hasarderai pas à dire ce qui est conforme, ce qui n'est pas conforme. Ce qui est sûr et certain, c'est que à tous égards, depuis 10 ans, l'évolution des rapports de force entre le camp qu'on peut considérer comme favorable aux idées kémalistes et ceux qui le sont de l'autre côté, a évolué au profit des idées qui sont de moins en moins kémalistes. Et encore une fois, ce n'est d'une certaine façon pas complètement anormal.
Est-ce que néanmoins, moi mon dernier voyage date d'il y a 4 ans, 5 ans, la présence d'Atatürk était encore...
Elle demeure.
Est-ce que ça demeure encore aujourd'hui? Parce qu'on a tendance évidemment à s'éloigner de plus en plus.
On s'éloigne de plus en plus et toute cette génération qui a été... complètement baignée par cette culture kémaliste, naturellement, aujourd'hui est de moins en moins prégnante, y compris sur le plan politique. Et puis par ailleurs, il y a un mouvement qui est assez prégnant depuis quelques années, c'est le retour à la valorisation de l'Empire ottoman. Il y a par exemple un film qui vient de sortir en Turquie, qui est consacré à la conquête d'Istanbul, qui s'appelle 1453, qui a été diffusé d'ailleurs avec énormément de moyens, c'est le plus budget cinématographique.
On revient aux sources de la Turquie ottomane.
Voilà. Et le film a été présenté dans les cinémas à 14h53. On est donc là dans une démarche d'ottomanisme. Et certains d'ailleurs considèrent que la politique étrangère turque, a fortiori dans le contexte du printemps arabe, est une sorte de néo-ottomanisme. Même si en fait on en parle depuis une dizaine d'années.
C'est tout l'intérêt, me semble-t-il, de cette figure de Mustafa Kemal aujourd'hui. C'est qu'elle peut quand même donner, alors peut-être pas un exemple, parce que les époques et les situations sont évidemment très différentes, mais elle peut donner en tout cas une sorte de modèle à des pays qui, étant musulmans, voudraient néanmoins asseoir une véritable laïcité. On a vu à différentes époques dans le temps, on a vu successivement l'Iran, alors pas l'Iran islamique évidemment, mais l'Iran du temps du Shah. On a vu l'Afghanistan évidemment à plusieurs reprises encore récemment. On a vu la Tunisie de Bourguiba s'inspirer directement de Kemal.
Oui. Et vous auriez pu ajouter aussi Anwar el Sadat, des Algériens. Donc toute cette tranche géographique et générationnelle de pays musulmans, effectivement, ont regardé et sont beaucoup inspirés de ce qu'a fait Atatürk en Turquie. Donc c'est vrai que ce modèle-là demeure, même si en soi le personnage vieillit, ce qui est naturellement naturel, si j'ose faire ce rapprochement sémantique, mais il n'empêche que le modèle demeure de comment confronter le contexte de la laïcité dans un pays et dans une région musulmane.
Il est évident que la figure même d'Atatürk étant nimbée de mystère ne se prête pas à un vieillissement très très facile. Les personnages historiques très monolithiques conservent généralement dans la mémoire des peuples une image plus nette. Celle d'Atatürk est forcément un peu troublée. Et il y a parmi ces nombreux mystères, il y en a un qui a longtemps été un tabou en Turquie, c'est celui de sa mort. De quoi est-il mort, il faut le dire.
Il est mort d'une cirrhose du foie, ce qui effectivement a été considéré comme un secret d'État et a conduit à interdire de nombreuses années tout écrit et toute expression sur le sujet. Mon livre a été traduit en turc. J'écris noir sur blanc qu'il est mort d'une cirrhose du foie. Et aujourd'hui, heureusement, j'allais dire, on peut...
Vous n'avez pas été censuré là-dessus.
Je n'ai pas été censuré et on peut... Moi, je suis de ceux qui pensent qu'un personnage doit être apprécié avec ses qualités et ses défauts. Et plus il est grand, plus on doit savoir reconnaître ses faiblesses. Et le fait que Atatürk buvait n'est pas en soi, c'est un défenseur.
Ce qu'il buvait, d'ailleurs.
Oui, c'est l'anisette turque qu'on appelle le raque, et qui accompagnait ses discussions avec ses compagnons qu'on évoquait tout à l'heure, et qui le conduisait effectivement à être beaucoup moins présent que Latife l'aurait souhaité, puisque il voyait beaucoup plus dans ses nuits tous ses compagnons en compagnie de ses bouteilles de raque qu'elle ne souhaitait le voir elle.
Oui, évidemment. Nous avons une auditrice, je crois, qui nous écrit que la fille d'Atatürk, Sabiha Gökçen, qui est pilote, est aussi arménienne et que récemment ça a suscité la polémique.
Jamais entendu parler. Il y a eu un certain nombre de rumeurs, d'hypothèses qui ont laissé entendre que, notamment à l'époque où il était général à la fin de la Première Guerre mondiale, donc sur le front oriental, où il aurait effectivement adopté temporairement un Arménien. Donc c'est des choses qui ont circulé à plusieurs reprises. Concernant Sabiha Gökçen, je n'ai jamais entendu parler, mais si cette personne a la gentillesse de me donner sa source, je l'utiliserai profit pour la réédition de ma biographie.
Nous allons vous donner ses coordonnées. Ça peut, après tout, ça peut être utile. C'est aussi l'intérêt de ce genre d'émission.
Exactement.
Est-ce qu'on peut dire que aujourd'hui l'héritage d'Atatürk est encore vivant?
Non, l'héritage n'est pas... Il y a un certain nombre de choses qui demeurent, la principale étant la laïcité et la volonté d'avoir...
Ça, c'est ce modèle dont on parlait.
C'est ce modèle, voilà.
Pour ce qui est de la modernisation, etc.
Mais je veux dire, immanquablement, tout sa vie, parce que l'univers dans lequel vivait et agissait Atatürk, donc celui des années 20 et 30, est aujourd'hui totalement... vous imaginez si on faisait revenir en France, fût-ce Clémenceau, ou un personnage important des années 30 qu'il aurait énormément de difficultés à reconnaître sa France. Donc, a fortiori pour Atatürk, même si encore une fois, comme vous l'avez dit très justement, il ne faut jamais oublier que un des ferments de la compréhension intellectuelle turque, c'est que la Turquie est un jeune pays.
C'est un pays
qui a aujourd'hui moins de 75 ans. Et donc, il faut se mettre un peu dans la tête de ce qui était la culture française, je vais dire, 75 ans après la création soit de la Première République, soit de la Troisième République. On est dans un contexte qui est encore très, très fragile et qui, effectivement, a tendance à regarder les choses à l'aune de sa propre vie, qui, encore une fois, est une vie souvent menacée.
On pourrait presque penser que les Turcs auraient intérêt ou avantage à mettre en avant cette figure historique, cette mémoire d'Atatürk pour, dans la perspective justement de leur rapprochement avec l'Europe.
Indubitablement, je pense que...
C'est ce qu'ils font d'ailleurs.
Je pense que dans une certaine mesure, M. Erdogan et ses conseillers n'oublient pas de faire appel à Mustafa Kemal, même s'il n'aurait spontanément, ils n'iraient pas passer leurs vacances ensemble.
Kemal Atatürk d'Alexandre Jevakov, c'est donc une de ces belles biographies que la maison Talendier nous offre régulièrement. Elle a été rééditée et donc augmentée, voilà. Une sorte de postface dans laquelle vous vous interrogez, voilà, précisément sur cette question du rapprochement potentiel entre la Turquie et l'Europe. Merci beaucoup Alexandre Jevakov.
Merci à vous.
D'avoir essayé de rendre un peu moins nébuleux, un peu moins mystérieux ce personnage tellement énigmatique.